je vais donc commencer. Comme d'habitude, je vais essayer de parler une petite heure du roman qui nous réunit, à savoir donc César Birotteau. C'est un texte qui est paru pour la première fois en 1837 et qui a été en même temps assez longuement médité et ruminé par Balzac. C'est-à-dire qu'il en parle assez longuement dans sa correspondance, disant « Ah, il faut que je finisse Birotteau, il faut que je... » Bon, voilà, il n'a pas commencé, mais... C'est-à-dire que c'est, pour lui, c'est une pièce importante de son dispositif, de la comédie humaine, et il en parle souvent avec un enthousiasme débordant dans les formules qui peuvent sembler un peu étranges. Voilà, c'est Socrate buvant sa ciguë goutte par goutte. Voilà. C'est un espèce de Socrate du commerce. Donc c'est un projet qui l'enthousiasme, qui va méditer, qui par bien des aspects est quand même une pièce centrale de la comédie humaine. C'est pas vraiment, enfin, il me semble que c'est pas un roman mineur comme bon, il y a des romans un peu curiosité de Balzac dans lequel il va explorer une idée un petit peu marginale de sa pensée. Là, on a vraiment quelque chose, je pense, qui est vraiment symptomatique, emblématique de la comédie humaine. Il devait même s'inscrire dans quelque chose, dans une partie bien plus vaste, hein, parce qu'il avait ruminé une espèce de grand triptyque sur la haute finance, dans lequel s'intégrerait un roman qui est paru, qui s'appelait La Maison du Singen, et également Gobseck. Hein. Pour lui, la description romanesque du monde de la finance, de l'argent, etc., c'est clairement un truc qui l'intéresse. On peut aussi ajouter que ça l'intéresse en tant que romancier, mais en tant que personne également. Parce que Balzac, qui a rêvé de mille vies et de mille manières de dominer la société, a lui-même boursicoté, a perdu beaucoup d'argent, soit en montant une imprimerie, soit en essayant d'investir dans des mines de sel, hein, en Allemagne. Bon, donc, c'est évidemment... Et puis, c'est quelqu'un qui a passé sa vie à courir après l'argent. Donc, l'objet même du roman, à savoir le récit d'une faillite et d'un monde dominé par l'argent, est quelque chose qui, pour Balzac, est très important. Alors, une fois qu'on a rappelé ça, on passe tout de suite au résultat, ça c'est les intentions, on en parlait un petit peu avant. C'est pas le roman le plus passionnant de Balzac, en fait. On en parlait avant de commencer. C'est pas le plus enlevé, c'est pas le plus romanesque. Moi j'avais parlé ici, par exemple, de La Duchesse de Langeais, où là on est vraiment dans les affres d'une histoire d'amour contrariée, enfin, là il y a matière à faire un film avec des acteurs flamboyants, etc. Là, César Birotteau, il faut bien reconnaître que c'est pas un sexe symbole et que c'est pas nécessairement une œuvre extrêmement enlevée sous ce rapport là. Néanmoins, elle a quelque chose de profondément littéraire, et je pense qu'elle a vraiment des qualités, au sens strict, des qualités littéraires. Parce que finalement, le récit, donc, qui est très simple, qui raconte l'ascension, enfin, la dernière marche de l'ascension d'un négociant parfumeur, donc César Birotteau, et puis sa catastrophe, hein, sa déchéance, sa déconfiture financière, sa faillite, bah, le récit d'un succès commercial et d'une faillite, bon, évidemment, c'est un sujet prosaïque par excellence, il n'y a pas de quoi s'enthousiasmer. Hein. Donc évidemment, il est en un sens victime de son sujet, mais une victime, à mon sens, tout à fait délibérée. Pourtant, sur la base d'un pitch, si vous voulez, ou d'un enjeu qui est quand même assez maigre d'un point de vue romanesque, Balzac va réussir à mêler deux choses. La première chose, c'est peut-être quelque chose qui relève presque d'une tragédie, en fait, d'une construction tragique. Le roman s'ouvre sur, en gros, un cauchemar de Madame Birotteau, qui prévoit sa ruine. Hein. Donc on est vraiment dans l'imaginaire, le destin est déjà écrit, enfin tout est déjà écrit, le roman sera la lente consommation de ce qu'on sait devoir advenir. D'où effectivement le fait que les mésaventures un peu pataudes de César Birotteau, qui va chercher à sauver sa peau, sont pour le spectateur colorées du nombre de fatalités. C'est-à-dire, on sait qu'il ne va pas s'en sortir, hein. On sait que c'est foutu. Donc ça donne un ressort tragique. qui est, enfin, en fait, tout ce registre de la tragédie transparaît dans la construction, hein, avec voilà, l'annonce, le destin, la prophétie qui pèse à travers le rêve, hein, la netteté également des caractères qui sont, je reviendrai là-dessus, sont souvent assez peu fouillés finalement dans leur profondeur psychologique. Ils incarnent un trait. Ils sont là pour faire leur boulot. Popineau, il sera Popineau jusqu'au bout, quoi, dévoué, etc., courageux, machin. Vous avez le monstre de tragédie, hein, le banquier du Tillet, hein, Ferdinand du Tillet. Bon, bah lui, c'est l'horreur. C'est le mec qui est très méchant et qui s'en félicite. Bon, vous avez la figure du juste aussi avec Pierrot, l'oncle Pierrot, etc. Donc, la netteté des caractères, bah, on a l'impression qu'on est sur une scène de théâtre, quoi. Ouais, chacun est là pour donner sa partie et pour jouer, pour être l'engrenage dans voilà, la machine qui va broyer Birotteau. Et puis, il y a évidemment aussi la construction, j'y reviendrai, très simple du roman, hein, une ascension et puis une chute avec une catastrophe centrale, bon, qui renvoie là encore à l'univers un petit peu tragique. Il y a quelque chose, il y a donc quelque chose de la tragédie classique dans César Birotteau, une tragédie en même temps bouffonne parce que peinte dans un milieu bourgeois, mais peut-être aussi quelque chose du drame religieux, hein, avec l'aller-retour constant qui est fait avec le Christ, il faut porter sa croix, etc. L'idée que César Birotteau, c'est une figure du juste, entre guillemets, crucifié par la société. C'est aussi l'histoire, dans la fin, de sa rédemption. Comment est-ce qu'il va essayer de reconquérir son crédit et puis sa réputation, son honneur, en rachetant à la sueur de son travail chaque centime de sa dette. Donc, une tragédie classique ou un drame religieux, si vous voulez, on est chez Racine, en un sens. C'est ce premier aspect qui peut donner voilà, son ressort tragique, son intérêt littéraire à ce roman. Même s'il peut y avoir une lourdeur, et même si on peut peiner à se passionner pour les affaires d'un commerçant, en même temps, moi, voilà, ça m'arrive même en le relisant, voilà, d'être pris de ce sentiment. On a envie de lui dire, mais non, faut pas faire ses affaires avec les terrains de la Madeleine, c'est pas ton truc, écoute ta femme, etc. Et pourtant, voilà, exactement comme quand vous écoutez une tragédie, vous avez envie de dire, attendez, on va s'entendre, Horace, Curias, etc. Donc il y a ce premier aspect qui peut justifier la lecture. Le deuxième, qui est, je pense, aussi quand même peut-être le cœur du projet de Balzac, c'est évidemment de compléter son projet de peinture sociale. Et c'est le deuxième, je pense, c'est la deuxième grande qualité de ce roman, outre la construction tragique, qui prend un écho particulier donc dans le contexte sociologique où il s'inscrit, l'idée d'une peinture sociale du monde bourgeois. César Birotteau est exemplaire, voilà, de ce monde médian qui est celui du commerce. Monde qui est passionnant pour Balzac, je le redirai tout à l'heure, parce qu'il est en contact avec toutes les strates de la société. D'une certaine manière, le parfumeur, eh ben, tout le monde va y aller, hein, chez le parfumeur. Et il y a même, avec toute cette affaire d'huile pour les cheveux, cette idée que les nobles comme les roturiers, etc., les aristocrates comme les prolos, ont des problèmes de cheveux. Et il y a une universalité dans l'art du commerce, qui est de pourvoir au bien commun, qui en fait effectivement une classe sociale, le commerçant, qui touche à toutes les autres. D'où son intérêt dans le projet de peinture sociale, qui est celui de la comédie humaine. Donc il y a une peinture de la classe bourgeoise qui est aussi représentée comme une classe moyenne, au sens pas simplement sociologique, mais aussi au sens de ses vertus. À la fois la probité, l'énergie, qu'on voit incarner à différents degrés par Birotteau, Popineau. Bon, c'est pas des propres à rien, hein. Ils ont du courage, de la probité, mais aussi des vices assez grossiers, hein, une espèce d'enflure, une mesquinerie, un égoïsme qui va marquer pour longtemps la peinture du bourgeois. Hein. La peinture du bourgeois, c'est aussi un grand thème de l'écriture du 19e siècle, hein, et même du 20e siècle. Il y a là-dessus, je vais faire juste cette allusion si vous trouvez ce bouquin, il y a un bouquin intéressant de Jacques Ellul, E-2-L-U-L, qui s'appelle « Métamorphose du bourgeois ». Jacques Ellul, c'est un penseur que je trouve assez recommandable, et qui, dans ce livre, s'intéresse justement à la figure du bourgeois, telle qu'elle est construite dans la littérature, dans l'histoire, et telle qu'elle est aussi un repoussoir politique, si vous voulez. Hein. Bourgeois et prolétaire, surtout faut pas être bourgeois, ou alors faut être bobo, bourgeois bohème. Ouais. Bon, il n'a pas connu les bourgeois bohèmes, Jacques Ellul, c'est un écrivain des années 50. Mais voilà, c'est pour ça que ça peut aussi être intéressant. Ce texte-là, il est voilà, un portrait assez fin du monde bourgeois qui est le nôtre. Hein. Balzac a une conscience très fine du fait que les bourgeois ont triomphé. Hein. C'est, bon, il n'est pas le seul, Guizot dit la même chose à ce moment-là, puis il y a quelque chose de l'analyse socialiste, hein, en germe, là on est en 1837, qu'est-ce que la propriété de Proudhon, c'est 1840, c'est un peu le premier grand texte socialiste de la tradition, après il y aura les textes de Marx, etc., puis le manifeste communiste en 1848, donc on est dans une peinture de cet animal décisif pour nous, qui est le bourgeois, hein. Ce que je trouve ensuite extrêmement intéressant dans ce bouquin, c'est que, s'intéressant aux bourgeois, Balzac le fait toujours dans une perspective qui reste littéraire. Moi, il se trouve que j'aime pas beaucoup Flaubert, parce que précisément, Flaubert aussi, c'est un peintre de la bourgeoisie, mais c'est un peintre sarcastique finalement très méprisant pour ce monde bourgeois. Il y a des tas de pages dans César Birotteau qui rappelleront... qui anticipe sur Bouvard et Pécuchet. Vous voyez, la bêtise des bourgeois qui veulent savoir, qui font... La scène, j'en parlerai tout à l'heure, il y a une scène hilarante où Popineau et Birotteau vont chez Vauquelin, un chimiste, académicien, c'est n'importe quoi, ça c'est du Flaubert. Mais en même temps, c'est pas du Flaubert parce que n'est pas porté ce regard qui serait celle de l'aristocrate du goût, du littérateur, qu'on trouvera aussi, par exemple... dans le refus des poètes comme Baudelaire ou même Rimbaud quand il fustige les assis. C'est de Rimbaud, ça, les assis, non ? Ça vous dit rien ? Il y a un poème de Rimbaud, je crois, qui s'appelle Les assis, qui peint les gars qui sont assis derrière leur comptoir et qui font rien, quoi. Donc, si vous voulez, j'ai envie de dire, Balzac est quelqu'un qui découvre la bourgeoisie, qui lui donne une première forme littéraire, mais qui est exempt de tout le ressentiment, la rancœur, et puis... voilà, c'est une farce qui me paraît plus moins sarcastique et plus, finalement plus instructive qu'un roman comme Madame Bovary, quoi, par exemple. Qui là aussi, Charles Bovary, c'est un espace de César Birotteau, mais qui est quand même moins sympathique. Bon, donc il me semble que voilà, pour terminer sur cette introduction, c'est un roman qui est peut-être moins réussi ou moins passionnant que d'autres aux yeux du lecteur, peut-être parce que précisément la gageure qu'essaye de relever Balzac, c'est de rendre romanesque un monde qui se définit par l'absence de romanesque. Il n'y a rien de moins romanesque que le monde bourgeois, et pourtant Balzac relève le défi, hein. Et là encore, il essaye de faire une histoire, de faire un roman avec cette matière-là qui est rétive au romanesque. Et il me semble qu'il est un précurseur là-dessus de pas mal de littérateurs postérieurs qui vont essayer de s'atteler à la bourgeoisie pour en faire quelque chose. Ça sera le cas de Proust, ça sera le cas des autres. Ils disent, bon, ben voilà, vu qu'on est dans un monde bourgeois, qu'est-ce qu'on en fait, hein? Est-ce qu'il faut aller rêver d'exotisme, etc., être dans la déprime, genre la nausée, quoi, vous voyez, genre on est des bourgeois, le monde n'a pas de sens, etc. Donc je pense que c'est le premier à se frotter à ça. Il me semble que littérairement, moi je me suis dit, qu'est-ce qui manque à ce roman? Je reviendrai un peu là-dessus. Je pense que si l'histoire d'amour entre Popineau et puis Césarine était mieux construite, parce que Césarine c'est quand même le personnage transparent par excellence, elle est très belle, elle est charmante, etc., mais elle ne dit pas grand-chose, et voilà, c'est pas un personnage construit. Si Balzac avait voulu se remettre à l'ouvrage et puis développer davantage cette intrigue-là. Alors au début on y croit parce qu'on se dit qu'il va peut-être avoir une rivalité avec Alexandre Crota, vous savez, le notaire à qui elle est d'abord promise, puis finalement il sort assez vite de la scène. On se dit, voilà, peut-être que ça aurait pu amener le livre peut-être un autre niveau d'intérêt en termes de passion romanesque. Donc moi je veux juste borner mes remarques, je vais juste reprendre un peu ce que j'ai dit en deux points. Essayer d'abord de dégager les intérêts de César, enfin faire une caractérisation plus littéraire du roman, c'est-à-dire dire finalement à quoi est-ce qu'arrive, qu'est-ce qu'arrive à faire Balzac à partir de ce, de cette intrigue et de ce projet, du point de vue de l'œuvre littéraire, c'est-à-dire aussi son articulation avec la comédie humaine, etc. Et puis, dans un deuxième temps, essayer peut-être de voir qu'est-ce que Balzac nous dit de son temps à travers ça. Il y a une philosophie, entre guillemets, une philosophie économique de Balzac qui est construite dans ce roman. Moi, c'est aussi sous cet aspect-là que ça m'avait intéressé. Voilà, c'est-à-dire en quoi est-ce que Balzac nous aide aussi à comprendre une part très importante de notre monde, à savoir évidemment la domination de la finance, de l'argent, etc. Donc voilà. Pour commencer, du point de vue littéraire, mon premier point, ça serait de revenir un petit peu sur la place de Birotteau dans la comédie humaine. Alors j'ai rappelé sa date, en 1837, c'est un peu une œuvre entre guillemets de maturité, c'est-à-dire que là il est au charbon, hein, Balzac, il est au cœur, c'est pas les premières œuvres dans lesquelles il cherche un petit peu le projet, là on est au cœur des grandes fresques balzaciennes, et il abat du travail. Hein. Et évidemment, comme je le disais, un des intérêts pour le balzacien, je veux dire, voilà, qui cherche à faire un petit peu le tour de cette œuvre immense, à mon avis, il ne peut pas manquer le carrefour qu'est Birotteau. Oui. Parce que, du point de vue de l'intérêt purement balzacien, après, voilà, c'est peut-être pas nécessairement le roman qui va nous enlever des larmes ou nous passionner, mais sa place dans la comédie humaine est centrale parce que c'est un des romans dans lequel la récurrence des personnages est la plus forte. Alors, je ne les ai pas comptés, mais je crois que c'est peut-être même dans la préface, vous estimez qu'il y avait une centaine de personnages de la comédie humaine qui étaient cités, et donc des tas de liens étaient tissés. Je vais remettre le doigt dessus, si vous voulez, hein, cette forte récurrence des personnages. Bon, elle s'explique par le fait, comme je le disais en introduction, que le commerce est vraiment l'argent lui-même est le lieu d'un échange. Voilà. Il n'est que ça, en un sens. Hein. Et donc, il a pour but de mettre les gens en relation. Donc, tout le monde fait commerce ou a une existence économique. Et dans la boutique ou dans le monde commercial que fréquente Birotteau, évidemment, on retrouvera tout le monde. Alors, un peu dans le désordre, vous retrouverez évidemment Félix de Vandenesse. Enfin, vous le retrouverez évidemment, c'est à la fin, vraiment, il est mentionné plusieurs fois. Mais Félix de Vandenesse, le héros du Lys dans la vallée, dont moi j'avais parlé, je crois, c'était le premier roman que j'avais traité dans le cadre de cet atelier. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le Félix de Vandenesse de la fin qui est un petit peu le conseiller, l'homme du roi, hein, l'homme de Louis XVIII, hein, qui est, quand vous avez Lys de la vallée en tête, il a fait du chemin, hein, en arrivant là, Félix. Mais c'est ce Félix maître de lui, ce Félix serein et arrivé, qu'on voit à la toute fin, et qui a su arriver aussi parce qu'il a eu les leçons de Madame de Mortsauf, et lui-même a connu ses écarts. Hein. Donc Félix de Vandenesse, vous voyez également passer une silhouette d'un des grands personnages balzaciens qui est De Marsay. On croise chez le baron de Nucingen, autre personnage central de la comédie humaine. Donc De Marsay, l'un des 13, cette figure assez inquiétante de dandy, homme à femme et homme de puissance, hein, qu'on trouve dans La fille aux yeux d'or. Donc je disais, le baron de Nucingen, qu'on trouve dans La maison de Nucingen, qu'on trouve également dans Le père Goriot, mentionné parce que Rastignac va avoir une aventure avec Delphine de Nucingen. Hein, donc la femme de... Vous trouvez également un autre personnage haut en couleur, qui est d'ailleurs qui est peint sous des couleurs plus flatteuses en un sens que dans l'illusion perdue, c'est Andoche Finot, le journaliste. Gaudissart aussi, voilà, le commis voyageur qu'on retrouvera. Vous avez évidemment aussi Derville. Moi j'aime beaucoup Derville, donc ça me fait plaisir de le revoir. Derville qui est donc l'avoué du colonel Chabert. Je crois qu'on le trouve aussi dans un roman, mais je n'ai pas lu, qui s'appelle L'Interdiction, il me semble. Ouais. Donc c'est peut-être le prochain que je lis. Mais donc Derville, vous avez également, qui est mentionné, ça j'avais hésité la dernière fois à vous le proposer, je me suis dit c'est un des deux Birotteau qu'il faut faire, c'est le curé de Tours, François Birotteau, le frangin donc, de César, à qui il arrive lui aussi... Le curé de Tours, c'est le récit d'une déconfiture. Hein. Voilà, dans la famille Birotteau, on n'a pas trop de chance. Où vous voyez le bon abbé Birotteau qui est la victime d'un jésuite carriériste qui va le dépouiller de son appartement. Voilà. Donc un destin parallèle. On pourrait rallonger un petit peu les allusions. On va, par exemple, l'oncle Pierrot, hein, donc l'oncle de Constance Birotteau, la femme de César. qui est, si je ne m'abuse, aussi également de la famille de Bianchon, enfin Horace Bianchon, le grand médecin de la comédie humaine, et plus ou moins lui aussi son neveu. Bref, on a un texte qui est vraiment taillé dans l'étoffe de la comédie humaine. On aurait pu, on pourrait allonger la liste, mais il me semble que, voilà, comme je le disais, quand on s'intéresse à Balzac, évidemment, ce carrefour est important. J'ai pas, il y a Gobseck aussi qui est évoqué. Je crois pas que, non, il est pas. Tout le monde en parle, on le croise au loin, mais il n'y a pas vraiment d'interaction entre Birotteau et Gobseck. Mais évidemment, Gobseck, il sera l'usurier, et puis le père d'Esther, l'amante de Lucien de Rubempré dans Splendeur et misère des courtisanes, etc. Donc c'est vraiment un roman qui incarne le projet balzacien total, quoi, de restituer un monde et sa vie, au point qu'on s'y perd un peu, hein, au point qu'il n'est pas forcément toujours facile au lecteur de se retrouver en disant « Ah ouais, lui, qu'est-ce qu'il a fait? » etc. Et également foisonnement des dates, parce que je ne l'ai pas rappelé, mais on est en 1819, il me semble. 1800, ouais. La faillite, elle est en 1820. Donc on est à la fin, on est à l'hiver 1819-1820. Et puis évidemment, il y a des romans de la comédie humaine qui se passent jusque dans les années 35, 40, 45, etc. Balzac vieillit aussi avec ses personnages, si vous voulez. Donc on se perd un peu là-dedans. Mais ces peintures un peu foisonnantes de personnages, ce monde balzacien qui est mis en branle, eh bien, ça permet à Balzac, dans ce roman, de dresser quelques portraits un peu flamboyants, justement, de toute cette faune de personnages mineurs qui reparaîtront pas forcément. Et on peut prendre, par exemple, moi, il y a un personnage que je trouve assez marrant, c'est un peu basique, mais c'est la vendeuse de noisettes, hein, Madame Madou. Une espèce d'ogresse idéale qui vit au milieu de cette. Qui parle n'importe comment et tout. Je voulais en lire le portrait parce qu'il est quand même marrant. Moi, dans mon édition, c'est page 137. Madame Madou, ancienne revendeuse de marais, jetée il y a 10 ans dans le fruit sec par une liaison avec l'ancien propriétaire de son fonds, et qui avait longtemps alimenté les commérages de la halle, était une beauté virile et provocante, alors disparue dans un excessif embonpoint. Elles habitaient le rez-de-chaussée d'une maison jaune en ruine, mais maintenue à chaque étage par des croix en fer. Le défunt avait réussi à se défaire de ses concurrents et à convertir son commerce en monopole. Malgré quelques légers défauts d'éducation, son héritière pouvait donc la continuer de routine, allant et venant dans ses magasins qui occupaient des remises, des écuries et d'anciens ateliers, où elle combattait les insectes avec succès. Sans comptoir, ni caisse, ni livre, car elle ne savait ni lire ni écrire, elle répondait par des coups de poing à une lettre en la regardant comme une insulte. Au demeurant bonne femme, haute en couleur, ayant sur la tête un foulard par-dessus son bonnet, se conciliant par son verbe d'ophicléide l'estime des charretiers qui lui apportent des marchandises et avec lesquelles ses castings finissaient par une bouteille de petit blanc. Elle ne pouvait avoir aucune difficulté avec les cultivateurs qui lui expédiaient ses fruits. Ils correspondaient avec de l'argent comptant, seule manière de s'entendre entre eux, et la mère Madou les allait voir pendant la belle saison. Birotteau aperçut cette sauvage marchande au milieu de ses sacs de noisettes, de marrons et de noix. « Bonjour, ma chère dame, » dit Birotteau d'un air léger. « Ta chère, » dit-il, « hé, mon fils, tu me connais donc, avoir eu des rapports agréables. Est-ce que nous avons gardé des rois ensemble? Je suis parfumeur et de plus adjoint au maire du 2e arrondissement. Ainsi, comme magistrat et consommateur, j'ai droit à ce que vous preniez un autre ton avec moi. « Je me marie quand je veux, » dit la virago. « Je ne consomme rien à la mairie et ne fatigue pas les adjoints. Quant à ma pratique, amador, et je le parle à mon idée. S'ils ne sont pas contents, ils vont se faire enfiler ailleurs. » Balzac se fait plaisir avec des portraits qui sont un peu moliéresques, quoi, vous voyez, c'est-à-dire cette femme du peuple qu'on retrouve à la fin, je sais plus, bon, quand en fait Birotteau la paye, je crois qu'elle veut le serrer, et Balzac a une formule pour expliquer qu'en fait elle a une poitrine énorme, je sais plus comment il s'amuse avec ça. Bon, il y a quelques personnages comme ça, qui, sous le rapport de la description, alors il faut se plaire à ce type de mise en scène, mais font que ce roman n'est pas dépourvu d'intérêt. Il y a là encore ce qu'on a vu même dans la description du personnage de Madou, qui est, moi je suis pas un grand, enfin je suis un Balzacien amateur, je sais pas si elle revient, si on reparle de la mère Madou quelque part dans un bouquin, je suis pas sûr, enfin pas à ma connaissance, mais si vous voulez, il y a comme ça des petits croquis d'une faune parisienne qui viennent compléter un peu le tableau et donner cette impression de foisonnement. À ça s'ajoute toujours dans la peinture de la comédie humaine l'association constante que Balzac fait entre le portrait humain, Les exemples un peu animaux, il y a un côté ménagerie chez Balzac, hein, bon, il adore Buffon et tout, et puis en même temps le côté, le lien avec l'architecture, on l'a vu encore, Madame Madou, il faut la voir dans son décor, quoi, avec ses tas de noisettes, son costume un petit peu, quand elle vient chercher l'argent de Birotteau, je crois qu'elle a une espèce de gilet en poil de lapin, enfin, voilà. Il faut les voir sur pied et en scène, quoi. Et là encore, même si, et Samy en avait parlé quand il avait fait le père Goriot, même s'il y a quelque chose de parfois un peu pesant dans les descriptions balzaciennes des intérieurs, évidemment, les intérieurs, ils font partie des personnages. Moi, il y a une description que je trouve totalement glaçante, il y a un personnage qui est terrifiant dedans, c'est le petit propriétaire, là, Molineux. Vous voyez, quand vous montez dans son sixième étage, dans son espèce de cour, ou chez ce gars-là, je veux dire, déjà, rien que le décor, on a compris, quoi. Et Balzac revient souvent là-dessus, avec cette idée que peindre la société humaine, c'est aussi peindre une géographie et une architecture. Hein. D'où le côté aussi amusant avec l'architecte Grindot, qui est un personnage assez intéressant. Bon. Donc le premier aspect, je pense que vraiment l'aspect littéraire, le plaisir littéraire qu'on peut tirer de ce roman, c'est le souci de croquis parisien. Hein. On est vraiment dans les scènes de la vie parisienne. Et toute la ménagerie, tous ces personnages sur lesquels je reviendrai, hein, mais qui sont souvent croqués avec, je crois, avec beaucoup d'honnêteté, de vivacité, ce qui rend le roman assez intéressant. Alors, deuxième intérêt, je pense, littéraire du bouquin, autant on a pu reprocher à Balzac parfois de tirer à la ligne, d'avoir des bouquins qui sont confus ou disproportionnés, autant on peut dire que ce bouquin, ce roman est peut-être... parce qu'il a été retravaillé, etc., l'objet d'une construction assez lisible et que je trouve assez agréable, en fait. Hein. La construction du roman le rend intéressant en tant qu'objet littéraire. D'abord, cette construction classique, si vous voulez, dont je parlais en introduction, en deux mouvements. Hein. L'apogée, le déclin. Il y a un petit peu une image de fronton grec, quoi. Vous voyez ça va au-delà, si vous voulez, du simple destin de Birotteau qui est arrivé au sommet et puis finit par chuter. Il y a au niveau de la construction du roman beaucoup d'épisodes qui se répondent. Ainsi, si vous prenez les deux extrémités du roman, de Birotteau, c'est des scènes de sommeil et de rêve, en fait. Hein. La fin du roman est complètement hallucinée. La mort de Birotteau au sein du second bal, bon, c'est halluciné, et ça fait écho à cette nuit un peu mystique sur laquelle s'ouvre le roman, avec ce songe, cette révélation d'une parfumeuse, voilà, les dieux viennent la visiter. Donc là encore, c'est ironique, mais il y a pas mal comme ça de parallèles à faire. Ce que je trouve appréciable dans la construction du roman, qui le rend malgré tout assez vivant, au moins dans sa première partie, c'est l'aspect un peu picaresque, voyez. On suit que c'est un voyage, alors on passe aux Tuileries, on va chez un tel, etc. La vie commerçante, c'est une vie de rencontre. C'est-à-dire, le personnage, Birotteau, est un voyageur. Et vous voyez, c'est une manière que je trouve intéressante et agréable de nous introduire à des différents personnages, voyez. Ça n'a pas la lourdeur d'une entrée, de description ponctuelle de gens qui sont tous dans une même pièce. Non, c'est vraiment les pérégrinations de cet Ulysse Birotteau, si vous voulez, qui va dans cette espèce de Capharnaüm, croiser des tas de personnages bizarres. Alors il va, je sais pas si je me souviens plus trop, c'est la même matinée ou pas, mais il va chez Madou, après il va chez Molineux, il croise Pierrot, etc. Enfin, c'est vraiment un pandémonium comme ça, qui se succède. Alors ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve les mêmes personnages dans une deuxième forme de voyage qui est celui dans le déclin. C'est-à-dire qu'il va les revoir pour leur demander des délais, pour leur demander de l'argent, etc. C'est-à-dire que là encore, le trajet, il y a un aller et il y a un retour, entre guillemets. Hein. Birotteau a tous les défauts, il est lourd, il est pâteau et tout ce que vous voulez, mais c'est un homme en mouvement dans Paris. Et quand il va être ébranlé, là... Quand Crottat lui annonce que Roguin s'est tiré avec l'argent, etc., là, il est foudroyé, il ne bouge plus. C'est l'immobilité. Parce que, justement, c'est le bourgeois, c'est pas juste... c'est pas le gars assis dont parle Rimbaud, quoi. C'est aussi cette énergie commerçante qui fait qu'il passe ses journées à trotter, qu'on retrouve également aussi dans ce personnage très dynamique qui est Popinot. Popino, il passe son temps à courir. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en plus, il a un pied beau, quoi. Vous voyez, donc il boite, mais il court, il va de l'avant, quoi. Donc je trouve que le tour et le retour des personnages, il est construit d'une manière beaucoup plus dynamique, ce qui devrait nous rendre, je pense que c'est ce qui nous rend supportable au fond peut-être la lecture du roman, c'est que tout ça est quand même assez enlevé, il se passe des trucs, et on a donc un double retour des personnages, au sein même du roman. Ce qui le rend peut-être moins intéressant, c'est que finalement, les personnages reviennent, mais ne changent pas, hein, c'est-à-dire qu'ils restent tels qu'en eux-mêmes. Molineux sera Molineux jusqu'au bout, Du Tillet pareil. Alors ils ont un moment de doute et puis ils reviennent sur la norme moyenne qui est celle de leur caractère, mais il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de retournement. Si vous prenez la Duchesse de Langeais, voilà, c'est aussi l'histoire de la métamorphose de deux personnages, quoi, qui vont sortir la Duchesse au début et une coquette, etc., qui se révèle être une mystique et une grande amoureuse. Bon. Là, évidemment, mais c'est peut-être le lot des bourgeois. Les bourgeois bougent beaucoup, c'est le mouvement immobile, quoi. Vous voyez. En termes de construction, c'est intéressant. Il y a aussi, en termes de construction, quand même, malgré tout, l'idée de la circularité du commerce. L'idée que l'argent est vraiment quelque chose qui coule entre les poches, dans un circuit plus ou moins fermé. Et en termes de construction, il y a au moins à ces lignes, si vous voulez. À ces triangles, on peut ajouter des parallèles, quoi. C'est l'idée que vous avez la carrière en différé de Birotteau qui est rejouée par Popino. Le déclin de Birotteau, c'est aussi le déclin, enfin, c'est aussi le récit de l'ascension de la maison Popino, hein, qui, on se souvient que la maison Birotteau avait pris les suites de la maison Ragon. Hein, bon, c'est-à-dire que le mouvement du commerce, c'est aussi un ressassement, c'est à la fois un ressassement perpétuel, c'est toujours la même chose, mais c'est aussi des trajets de vie, des aventures. Hein. Popino, il est lancé dans le roman. Hein. Et lui-même, à la fin, on le retrouve dans la Comédie humaine, je ne sais plus trop où, mais on parle du comte Anselme Popino. C'est-à-dire qu'il va aller assez loin, parce que sous la monarchie bourgeoise qui va arriver, hein, celle de 1830-1848, eh bien évidemment... le vieux royalisme va tomber, et puis les hommes d'opportunité, les bourgeois vont pouvoir conquérir un peu leur quart de noblesse. Voilà. Donc au sein de cette construction, hein, le roman picaresque avec les voyages, la volonté de jouer sur des symétries, les renvois, il y a aussi le parallèle entre les deux balles qui viennent clore chacune des parties.